Bonjour à tous. Le secrétaire général fera une présentation du sommet de cette semaine et prendra ensuite vos questions. Bonjour à tous. Demain et jeudi, les dirigeants de l'OTAN se retrouveront ici à notre nouveau siège. L'OTAN incarne le lien entre l'Europe et l'Amérique du Nord, un lien qui protège nos peuples depuis presque 70 ans. Nous sommes une alliance qui existe pour empêcher les conflits et pour maintenir la paix, une alliance qui sait s'adapter en permanence à un monde qui change. Et avant tout, une alliance qui est à la hauteur de ses engagements. Lors du sommet, nous serons à nouveau à la hauteur de ces engagements. Dans le renforcement de notre dissuasion et de notre défense, en allant plus loin dans la lutte contre le terrorisme et en réalisant un partage plus équitable des charges. Investir dans sa défense est une question de crédibilité et d'équité. C'est pourquoi nous évoquerons demain l'effort de défense et le partage du fardeau. En 2014, les Alliés ont convenu d'arrêter les réductions, de commencer à augmenter leurs dépenses pour atteindre 2% du PIB consacré à la défense en 10 ans. Depuis, nous avons fait des progrès considérables. Mais le chemin est encore long et nous devons donc redoubler nos efforts. Aujourd'hui, je peux annoncer que nous allons publier de nouvelles estimations 2018 pour l'effort de défense de chaque allié. Et ces chiffres sont encore encourageants. Ils montrent que, par rapport à 2014, tous les alliés ont arrêté les réductions et tous augmentent désormais leurs dépenses. On a vu l'année dernière la plus grande augmentation depuis une génération. Et cette année-ci sera la quatrième année consécutive d'augmentation réelle. Selon les estimations, 8 alliés devraient consacrer au moins 2% de leur PIB à la défense cette année. Ceci par rapport à seulement 3 alliés en 2014. Les alliés investissent également des milliards en de nouveaux matériels importants et renforcent leur contribution aux missions et aux opérations. Nous avons donc inversé la tendance. Avant, cette tendance était à la baisse, elle est désormais à la hausse. Pendant des décennies, nos pays ont réduit leur effort de défense par des milliards de dollars. Désormais, ils ajoutent des milliards. Je tiens à remercier tous les pays pour leurs efforts pour renforcer notre défense dans un monde qui est devenu de plus en plus imprévisible. Et je voudrais remercier le président Trump pour avoir montré la voie en matière de dépenses de défense. L'impact de son leadership est clair. L'année dernière, à l'initiative du président, nous avons convenu de mettre en place des plans nationaux pour augmenter l'effort de défense. Et selon ces plans, on estime que les alliés européens et le Canada consacreront 266 milliards de dollars US supplémentaires à leur défense d'ici 2024. Et ceci est considérable.
Demain, nous prendrons également des décisions pour renforcer le rôle de l'OTAN dans la lutte contre le terrorisme. Nous lancerons une nouvelle mission de formation en Irak dotée de centaines de formateurs OTAN. Nous assisterons l'Irak à mettre en place des écoles militaires pour améliorer le professionnalisme des forces irakiennes. Il s'agira d'une force non combattante, mais cela aidera l'Irak à prévenir la résurgence de Daesh et d'autres groupes terroristes. Nous nous mettrons d'accord également sur un soutien supplémentaire pour nos principaux partenaires au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Nous augmenterons notre soutien à la Tunisie grâce au conseil d'experts dans des domaines comme la lutte contre le terrorisme et la lutte contre les engins explosifs improvisés. Nous augmenterons également notre soutien à la Jordanie, y compris sur la cyberdéfense, la lutte contre les engins explosifs improvisés et la gestion de crise. Mieux vaut prévenir qu'intervenir. Aider nos partenaires participe de notre sécurité collective quand nous les aidons à gérer des crises. Pour renforcer plus avant notre dissuasion et notre défense, nous adopterons une initiative de réactivité, les 4 30. Il s'agit d'un engagement d'avoir d'ici à 2020 30 bataillons mécanisés, 30 escadrilles et 30 navires de guerre prêts à l'emploi dans un délai maximum de 30 jours. Nous nous mettrons d'accord sur une nouvelle structure de commandement de l'OTAN, y compris un nouveau commandement pour l'Atlantique à Norfolk en Virginie et un autre commandement pour la mobilité militaire en Europe à Ulm en Allemagne. La mobilité militaire signifie que nous déplacerons des troupes et du matériel rapidement là où ils sont nécessaires. Au cours des 4 dernières années, l'OTAN a investi plus de 2 milliards d'euros dans des infrastructures qui rendent cela possible, y compris des terminaux maritimes, des conteneurs de carburant et des pistes d'aérodromes. Demain, grâce à notre étroite coopération avec Eurocontrol, nous augmenterons également notre mobilité aérienne. Les aéronefs soutenant des missions de l'OTAN se verront attribuer un signal d'appel OTAN. Et cela leur conférera un traitement prioritaire par les autorités de contrôle de la circulation aérienne en Europe en temps de paix et en temps de crise. Demain, nous parlerons également de la réaction de l'OTAN face aux menaces hybrides et nous nous mettrons d'accord pour établir des équipes de soutien de lutte contre les menaces hybrides pour soutenir les alliés touchés par ces menaces. Nos défenses renforcées seront étendues au domaine cyber avec un nouveau centre d'opération cyber faisant partie de la nouvelle structure de commandement de l'OTAN et la capacité de s'appuyer sur les cybercapacités des alliés dans les missions et les opérations de l'OTAN. Au cours du dîner, nous rencontrerons nos collègues de Finlande et de Suède, ainsi que les présidents du Conseil européen et de la Commission européenne. Ensemble, nous discuterons des principaux défis se posant dans la zone transatlantique, y compris les défis venant du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, une Russie qui s'impose davantage et la situation dans la péninsule de Corée. Ce matin, j'ai rencontré le président Tusk et le président Juncker. Nous venons de signer une nouvelle déclaration conjointe qui établit la vision partagée de la coopération OTAN-UE et qui nous rendra plus forts et plus sûrs et qui contribuera au partage équitable du fardeau. Jeudi, nous rencontrerons les présidents de Géorgie et d'Ukraine, deux de nos partenaires les plus proches. Ensemble, nous parlerons des défis régionaux. Nous discuterons également des réformes de la défense dans ces pays et du soutien que l'OTAN continue d'assurer à ces pays. Nous terminerons le sommet par une réunion sur l'Afghanistan, rejoint par nos partenaires de Resolute Support. Notre présence en Afghanistan est essentielle pour veiller à ce que l'Afghanistan ne soit plus jamais un sanctuaire pour le terrorisme international. Et les alliés augmentent leur engagement à la fois en termes de force et de financement. Nous avons ajouté plus de 3000 formateurs à notre mission. Au sommet, je m'attends à ce que nous approuvions également un financement supplémentaire pour les forces afghanes au-delà de 2020. Et nous exprimerons notre soutien plein et entier à l'initiative de paix audacieuse du président Ghani et à ses réformes gouvernementales. Et puis, je m'attends à ce que, suite à l'accord historique du mois dernier sur la question du nom, nous allons nous mettre d'accord pour inviter Skopje à entamer les pourparlers d'adhésion. Lorsque l'accord sera finalisé et mis en œuvre, nous pourrons inviter l'ex-république yougoslave de Macédoine à devenir le 30e membre de l'OTAN sous son nouveau nom, la République de Macédoine du Nord. Ce sera là un message très fort disant que la porte de l'OTAN est et reste ouverte. Notre sommet vient à un moment où certains remettent en question la solidité du lien transatlantique. Et cela ne me surprendrait pas si nous avions de solides discussions sur ce point au sommet, y compris sur les dépenses en matière de défense. Il est normal qu'il y ait des divergences de vues entre amis, entre alliés, Mais j'ai confiance. Je pense que nous allons pouvoir nous mettre d'accord sur les fondamentaux. L'Amérique du Nord et l'Europe demeurent unies. Nous allons prendre des décisions pour renforcer notre alliance et protéger nos citoyens pour les années à venir. Je suis prêt à répondre maintenant à vos questions. Le Washington Post, ici, au centre, à la cinquième rangée.
Hello, Michael.
Bonjour, Michael Birnbaum, Washington Post. Je voulais vous demander, bon, le président Trump a tweeté à l'instant que les États-Unis dépensent bien plus que les autres pays pour protéger le monde. Ce n'est pas juste pour les contribuables. En plus, on a des pertes commerciales avec l'Union européenne suite à ces problèmes et des barrières. Quelle est la conséquence de lier le commerce à la défense de cette manière? Qu'en pensez-vous?
Alors, cela confirme qu'il y a différentes vues parmi les alliés, y compris le commerce, le changement climatique, les questions nucléaires et d'autres questions. En ce qui concerne le commerce, je m'en remettrai à l'Union européenne. En ce qui concerne la défense, ça c'est quelque chose qui relève de l'OTAN. Et mon message est le suivant. Nous renforçons à l'heure actuelle nos dépenses, l'Union européenne, le Canada, nous faisons plus aux États-Unis, au Canada et en Europe. Et je crois que ce sommet montrera que nous sommes à la hauteur et que nous sommes prêts sur le volet sécurité et défense en dépit des divergences sur le plan commercial et sur les autres questions. Une de mes responsabilités principales, c'est de veiller à ce que, tant que les désaccords sur le commerce restent non résolus, nous réduisions au minimum les divergences au niveau de la défense et au niveau de l'OTAN. Nous avons réussi jusqu'à présent et j'espère que nous pourrons le faire au sommet. En effet, nous avons réussi sur beaucoup de plans. Bon, le partage du fardeau n'est pas équitable. C'est pourquoi le Canada et les États-Unis répondent à l'appel et nous avons augmenté les dépenses. C'est sans précédent depuis la guerre froide. Et basé sur les plans nationaux que nous avons approuvés l'an passé, nous nous attendons à ce que nous apportions 266 milliards de dollars en plus pour la défense. C'est significatif. Nous nous engageons dans la bonne voie et j'ai confiance, par conséquent, que ce sera également quelque chose de reflété au sommet, à savoir que nous allons dans la bonne voie.
Oui, Daniel Rosset, la Deutsche Zeitung, secrétaire général, vous avez remercié le président Trump pour son rôle de leader et vous avez dit que ce rôle a clairement un impact sur la question des 2%. Et vous n'êtes pas inquiet qu'il risque d'y avoir un impact négatif également dans la manière notamment que le président Trump communique avec les États membres peut avoir un impact néfaste sur les relations au sein de l'Alliance? Alors les alliés européens et le Canada ne devraient pas augmenter leur effort de défense simplement pour plaire aux États-Unis. Ils l'augmentent parce qu'il y va de leur propre intérêt. C'est pour cela qu'ils ont convenu d'investir davantage dans la défense en 2014. Et c'est pour cela qu'ils investissent davantage dès maintenant. Tous. Je ne dis pas qu'ils ont tous dépensé suffisamment, mais on a fait un bon début avec une augmentation considérable à l'échelle du Canada et de l'Europe. Maintenant, cette augmentation de l'effort de défense en Europe et au Canada est mieux pour le partage des charges, pour ce fameux fardeau. Mais si on investit, ce n'est pas pour plaire aux États-Unis. Si on investit davantage dans sa défense, c'est parce que c'est nécessaire, parce que nous vivons dans un monde plus imprévisible. J'ajouterai encore ceci. Un OTAN forte, c'est bon pour l'Europe, mais c'est bon également pour les États-Unis. Deux guerres mondiales et une guerre froide nous ont montré que nous sommes fortes ensemble. Et la seule fois que l'OTAN a invoqué son article 5, c'était suite aux attentats du 11 septembre aux États-Unis, qui a fait que des troupes des États-Unis ont servi avec les forces européennes et canadiennes en Afghanistan. Et c'est un effet multiplicateur pour les États-Unis. Nous avons combattu aux côtés des États-Unis en Corée, en Afghanistan et dans d'autres encore. Et la présence américaine sur le territoire européen est bien entendu bénéfique pour la sécurité européenne, mais est dans l'intérêt également des États-Unis. C'est une manière pour les États-Unis de disposer d'une plateforme de projeter leur puissance militaire vers le Moyen-Orient et en Afrique. Et la capacité européenne vient aider à renforcer la protection des États-Unis. Donc je pense que lors de ce sommet, on pourra démontrer cette unité, cette détermination, cette solidarité, et montrer que tout cela est de l'intérêt à la fois des États-Unis, de l'Amérique du Nord et de l'Europe. Et donc, nous allons continuer à être à la hauteur de nos engagements.
Al-Arabiya. Monsieur le secrétaire général, Il y a deux jours, les services de sécurité tunisiens ont été victimes d'une attaque terroriste lourde. Je voudrais vous entendre. Ne pensez-vous pas que la Tunisie manque de moyens, d'hommes pour lutter contre le terrorisme? Est-ce que l'OTAN pourrait apporter quelque chose, apporte déjà quelque chose, apportera quelque chose à l'avenir à la Tunisie? Et autre question qui est liée, de nombreux groupuscules terroristes actifs en Tunisie viennent de Libye. Vous avez à plusieurs reprises reçu des demandes d'officiels libyens d'aide au renforcement des institutions de défense au vu de la crise libyenne. Est-ce que l'OTAN a réussi à apporter son aide, à y organiser les choses, à planifier, ou n'y a-t-il encore rien au vu de la situation qui se détériore dans le pays? Nous apportons notre aide à la Tunisie déjà. Mais je suis sûre que les chefs d'État et de gouvernement accepteront un paquet de renforcement des capacités de défense pour la Tunisie au sommet. Justement, le but étant d'aider à lutter contre le terrorisme, à partager les renseignements, à lutter contre les EEI et toute une série de choses qui permettent de lutter contre, en un mot, la menace terroriste. Nous pensons que travailler avec des partenaires comme la Tunisie est la meilleure manière de lutter contre le terrorisme. Entraîner les forces locales, permettre au gouvernement local de stabiliser le pays est bien plus efficace et bien plus viable comme solution et comme stratégie dans la lutte contre le terrorisme que d'être au contraire déployer nos troupes dans de lourdes opérations de combat. S'agissant de la Libye maintenant, nous soutenons les efforts sous la houlette des Nations Unies pour trouver une solution pacifique et négociée au conflit. Nous sommes également prêts à apporter notre aide à ce pays, au renforcement des institutions libyennes. Nous sommes prêts à aider le ministère de la Défense, les institutions et les structures de défense à se renforcer. Et c'est sur ce dossier que nous travaillons avec la Libye actuellement. Interpresse. Géorgie, Monsieur le Secrétaire général, avant le sommet de l'OTAN, les officiels russes ont exprimé à de nombreuses reprises les préoccupations de l'approfondissement des relations entre la Géorgie et l'OTAN. Hier, des sources diplomatiques au sein de l'OTAN ont fait que Nevarossiya a dit qu'il y avait des négociations en cours par rapport à la Géorgie à l'OTAN. Comment évaluez-vous les choses? Quels sont les résultats tangibles que la Géorgie peut attendre du sommet? Vous avez également mentionné dans votre bref exposé que la porte de l'OTAN reste ouverte à tout pays aspirant à l'adhésion. Si les portes de l'OTAN sont ouvertes, la Géorgie pourra-t-elle bénéficier de cette politique de la porte ouverte? Et si oui, quand? Je suis certain que les chefs d'État et de gouvernement au sommet qui commence demain reconnaîtront les progrès accomplis par la Géorgie.
progrès sur le front des réformes, sur le renforcement des de la sécurité, de la défense, des institutions de sécurité et de défense. Nous continuerons à apporter notre aide à la Géorgie à ce titre. Et nous sommes bien sûr remplis de gratitude, de soutien de la Géorgie aux missions et opérations de l'OTAN, notamment et surtout en Afghanistan. Nous pensons que la Géorgie fait de grands progrès. Je ne suis pas en mesure de vous donner de calendrier spécifique, mais il n'en reste pas moins que le Monténégro nous a rejoint depuis peu et que bientôt, demain, nous déciderons d'inviter les RIM démontre que la porte de l'OTAN est bel et bien ouverte et que nous continuerons de soutenir la Géorgie dans son cheminement vers une adhésion à l'OTAN. Nous pensons également que les chefs d'État et de gouvernement accepteront que les décisions prises en 2008, à savoir que la Géorgie deviendra membre, sera confirmée. Radio Free Europe, merci, Monsieur le Secrétaire général. Alors, où nous parlons, l'Arabie saoudite accueille une conférence de deux jours, une conférence sur la paix en Afghanistan. Comment jugez-vous le rôle des Saoudiens dans le processus de paix en Afghanistan? Est-ce que les efforts régionaux pourront, à terme, encourager les talibans à s'asseoir à la table des négociations avec le gouvernement afghan? Merci. Je crois qu'il est important de soutenir un processus de paix soutenu par les Afghans et que les Afghans puissent s'approprier. C'est pour cela que nous saluons l'initiative de paix du président Ghani. Le président Ghani a invité sans condition aucune les talibans à s'asseoir à la table des négociations de paix. Il a également lancé un cessez-le-feu qui est lié avec le congé de l'Aïd. Nous tenons à soutenir et à souligner le fait que le soutien de tous les pays de la région est précieux, mais qu'il doit aller à un processus de paix détenu par les Afghans. La présence de l'OTAN en Afghanistan a pour but de lutter contre le terrorisme, pour stabiliser le pays. Nous resterons en Afghanistan. Le but de la présence militaire de l'OTAN en Afghanistan étant d'asseoir les bases d'une solution négociée. Les talibans doivent comprendre qu'ils ne remporteront pas la victoire sur le champ de bataille, qu'ils doivent s'asseoir et parler avec le gouvernement Ghani afin de trouver une solution politique. L'agence France-Presse.
S'il vous plaît. Le président Trump est assez imprévisible. Lors de sa rencontre avec le dirigeant nord-coréen, il a annulé sans prévenir personne un énorme exercice militaire qui était prévu avec la Corée du Sud. Est-ce que vous avez des craintes qu'avant de rencontrer le président Poutine, pour reprendre son expression et éviter les jeux de guerre, il ne fasse annuler l'exercice qui est prévu par l'OTAN en Norvège à l'automne? Et dans ce cas, quelles seraient les conséquences? Et une deuxième petite question, est-ce que vous partagez l'appel lancé par le président Donald Tusk tout à l'heure, à un peu plus de civilité dans les rapports entre les alliés? Est-ce qu'en invectivant les gens, on est encore en train de se considérer comme des alliés? Merci.
I welcome that, President Trump.
Je salue la rencontre entre le président Trump et le président Poutine. C'est dans le droit fil des politiques de l'OTAN. Nous pensons, nous croyons fermement dans l'approche double entre l'OTAN et la Russie. Combiner la défense, la fermeté et le dialogue. Nous devons être fermes, prévisibles. Et les alliés ont investi plus dans leur défense, ont renforcé la réactivité de leurs forces, ont posté des groupes tactiques au flanc est de l'Alliance pour démontrer que nous pratiquons la dissuasion et la défense. Et cette base est une base idéale au dialogue politique, parce que nous ne voulons pas d'une nouvelle guerre froide, nous ne voulons pas d'une nouvelle course aux armements. La Russie est et restera notre voisine. Il faut donc continuer à dialoguer avec cette Russie à différents niveaux, afin d'essayer d'avoir des relations apaisées avec la Russie. Mais même sans relations apaisées avec la Russie, il est important de continuer de dialoguer avec la Russie, pour éviter les risques, les mauvais calculs, les malentendus, les incidents, les accidents. Plus la tension monte, plus il y a foison d'activités militaires à nos frontières, plus le dialogue et les lignes de communication entre les alliés, l'Alliance et la Russie doivent être ouvertes. Nous n'avons pas été en mesure pendant 2 ans de convoquer le Conseil OTAN-Russie, mais depuis 2016, nous avons gardé le contact par le Conseil OTAN-Russie, qui est la plateforme de dialogue entre l'Alliance et la Russie. C'est pour cela que je pense qu'il est absolument essentiel que le président Trump rencontre le président Poutine. Je suis confiant que cette réunion sera importante parce que le dialogue est important en temps de tensions exacerbées. Toute mesure permettant d'apaiser la situation, de réduire les tensions, est à saluer. Mais il est important que l'OTAN reste unie. Et c'est à ce titre que je salue le fait que nous soyons en mesure de discuter avec le président Trump avant sa rencontre avec le président Poutine au dîner de demain soir, où nous aurons l'occasion de discuter avec lui de la relation entre l'OTAN et la Russie. S'agissant de votre seconde question, je l'ai dit et répété ces derniers mois, certes il y a des désaccords. Certes, il y a des divergences de vues. Et j'espère que l'on parlera honnêtement de ces divergences de vues au sommet. Mais il n'en reste pas moins que l'OTAN peut continuer à être la pierre angulaire de la sécurité transatlantique en dépit de ces divergences. En partie parce que c'est ce que nous avons été capables de faire précédemment. Il y a eu des désaccords entre alliés. Et ils existent, ces désaccords, depuis la création de l'Alliance. Pensez à la crise de Suez dans les années 50, où lorsque la France a décidé de quitter la structure de commandement de l'OTAN en 56, lorsque l'OTAN a dû quitter Paris pour rejoindre Bruxelles, ou les événements de 2003. Je crois qu'il y a des désaccords entre les alliés de l'OTAN. Il y en a toujours eu. L'histoire nous dit, par contre, que nous avons pu surmonter ces désaccords. La deuxième raison pour laquelle je pense que l'OTAN restera la pierre angulaire de la sécurité transatlantique, c'est parce que c'est dans notre intérêt. Nous avons intérêt à ce que l'OTAN reste. Elle est bonne pour l'Europe, mais elle est bonne aussi pour l'Amérique du Nord, cette alliance. Le fait que vous ayez des forces et des infrastructures européennes en Europe est important pour la protection de l'Europe, mais aussi pour la protection des États-Unis, afin de permettre aux États-Unis de projeter leur puissance militaire vers le Moyen-Orient, vers l'Afrique du Nord. Le fait que les forces européennes, les capacités européennes existent est important, car cela peut aider à renforcer la protection des États-Unis également. Et la troisième raison pour laquelle je pense que l'OTAN continuera à faire preuve de solidarité et de détermination à rapprocher l'Amérique du Nord et l'Europe, c'est parce que c'est ce que cette alliance a toujours fait. Souvenez-vous, lors de la prise de fonction du président Trump, depuis lors, les États-Unis sont plus présents en Europe. Plus d'infrastructures, plus de positionnement d'équipements américains, plus de troupes américaines, plus de financement pour l'armée américaine présente en Europe, plus 40% depuis la prise de fonction du président Trump. Les actions sont plus éloquentes que les paroles. Certes, il y a des désaccords, certes, les débats seront francs et honnêtes, mais lorsqu'il s'agit du contenu, l'Alliance rencontre les défis et prouve que les États-Unis, le Canada et l'Europe peuvent travailler ensemble. Autre exemple, aujourd'hui, le Premier ministre Trudeau a annoncé que le Canada resterait à la tête du groupement tactique qu'il dirige pendant 4 années de plus. C'est encore une autre preuve de sa présence en Lettonie, en l'occurrence.
Merci beaucoup, Michael Peel, des Financial Times. Pourriez-vous nous donner les derniers chiffres en date, les dernières données sur l'effort de défense et nous dire combien de pays doivent atteindre l'objectif de 2% d'ici 2025? Et deuxièmement, ayant publié ces chiffres aujourd'hui, vous n'êtes pas inquiet de voir l'Allemagne, qui a été une cible privilégiée du président Trump, à côté de 9 membres, autres membres qui dépensent moins que l'Allemagne en termes de pourcentage l'année dernière. Alors, nous avons publié ces chiffres parce qu'on les publie toujours à cette époque de l'année. C'est un cycle habituel pour l'OTAN s'agissant de la publication des chiffres de l'effort de défense. Plus tôt cette année, nous avions publié un chiffre cumulé et maintenant nous publions des estimations 2018 pour chaque allié individuel. Et vous pourrez voir donc les différents chiffres dans la déclaration de presse, dans le communiqué de presse. Alors, en 2014, lorsque nous avons pris cette décision, seuls 3 alliés atteignaient l'objectif de 2%. Cette année-ci, on suppose que ce sera le cas pour 8 alliés. Ce sera les États-Unis, l'Estonie, la Grèce, le Royaume-Uni, la Lettonie, la Pologne, la Lituanie ainsi que la Roumanie atteindront cet objectif. Si vous regardez les tableaux, vous verrez que parmi ces pays, on en trouve qui sont également à 1,98%, donc ils ne sont pas tout à fait à 2%, mais si vous regardez le note de bas de page, vous verrez que ces pays qui sont juste en dessous du seuil se sont engagés à atteindre cet objectif dans les années qui viennent. Donc c'est 2% ou très près de ce seuil pour 8 alliés encore. Et ce sont encore une fois des estimations initiales qui peuvent encore s'améliorer à l'échelle de l'Alliance d'ici la fin de l'année. Donc voilà qui répond à votre première question. On est passé de 3 à 8 alliés. Mais pour l'effort de défense global, cela dépend du nombre de pays qui atteignent l'objectif de 2%, mais cela dépend également de ce qui se passe chez les autres. Et tous les alliés augmentent leur effort de défense en termes réels. S'agissant de l'Allemagne, l'Allemagne augmente également ses dépenses. Après des années et des années de réduction dans l'effort de défense, sa tendance est maintenant à la hausse. Et ce que fait l'Allemagne est important car l'Allemagne a la plus grande économie européenne. L'année dernière, ils ont augmenté leur budget de défense de près de 6% en termes réels. Et cette année-ci, cette augmentation va se poursuivre en temps réel, en termes réels. Et l'Allemagne a des projets également d'augmenter son effort de défense de 30% d'ici 2024. Donc l'Allemagne aussi va dans le bon sens, mais je m'attends à ce que l'Allemagne, comme d'autres, fasse plus. Voilà, on a une dame devant. Je viens de la télévision nationale serbe. Et j'ai une question sur le rôle de l'OTAN dans notre région, dans les Balkans. L'OTAN joue un rôle de plus en plus important, notamment avec le chemin de la Macédoine vers l'adhésion. Est-ce que la politique de l'OTAN vis-à-vis de la Serbie va évoluer également lorsqu'il y aura un nouveau membre de l'OTAN dans notre région? Et vous attendez-vous à des changements dans les relations des superpuissances avec notre région après la rencontre de Helsinki d'ici quelques jours? Bon, la Serbie est un partenaire proche et précieux de l'OTAN. J'apprécie énormément le fait qu'on ait pu renforcer notre coopération avec ce pays. Je pense que les alliés vont inviter Skopje à lancer des pourparlers d'adhésion. Cela ne devrait en rien modifier notre rapport avec Belgrade. Je n'aimerais pas spéculer sur l'issue de la réunion de Helsinki, mais en tout cas, l'OTAN, quant à elle, va continuer à travailler avec les pays des Balkans occidentaux, car nous avons toute une histoire dans cette région. Nous avons une présence à Sarajevo, à Belgrade et bien entendu avec la KFOR. Nous avons un grand nombre de membres dans cette région ainsi que beaucoup de partenaires. Et pour Pour ce qui est de la Serbie va accueillir l'exercice de préparation civile de l'OTAN cette année-ci. Ce sera à l'automne sur le territoire serbe. Et voilà qui montre, qui témoigne du fait que l'OTAN respecte tout à fait la décision de la Serbie de ne pas souhaiter devenir membre de notre alliance, ce qui ne nous empêche pas de continuer à apprécier notre relation et cette coopération que nous avons avec la Serbie. Je viens de la télévision polonaise. Qu'en est-il de la présence militaire américaine en Pologne? Attendez-vous à des décisions en la matière lors du sommet? Alors, les États-Unis et le Canada, l'Amérique du Nord, de façon générale, a augmenté sa présence en Europe, y compris en Pologne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cela se fait dans le contexte de la fin de la guerre froide. Depuis les années 90, on a constaté une diminution importante de la présence militaire du Canada et des États-Unis en Europe. Le dernier char de bataille américain a quitté l'Europe en 2013. Et maintenant, les États-Unis sont de retour avec une brigade blindée tout entière. Donc, ce que nous constatons désormais, c'est une augmentation importante de la présence militaire américaine et canadienne sur le sol européen, y compris en Pologne. Il y a les quatre groupements tactiques dans les trois pays baltes et en Pologne. En Pologne, c'est les États-Unis qui commandent ce groupement tactique, mais ça passe également par une présence renforcée des États-Unis en dehors de ces groupements tactiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces déploiements américains se font à différents endroits en Europe, mais font partie d'une présence sur base de rotation qui touche également la Pologne et les États baltes. Et donc, on ne prévoit pas de nouvelles décisions sur notre propre posture, mais nous avons augmenté l'état de préparation de nos forces, la présence des forces de l'OTAN dans la partie est de l'Alliance, y compris en Pologne. Et nous allons, lors du présent sommet, prendre des décisions pour renforcer notre capacité de renfort rapide, le cas échéant. Donc, notre défense et dissuasion ne reposent pas uniquement sur les troupes déjà déployées, mais sur le fait que nous pouvons rapidement faire venir des forces supplémentaires si nécessaire avant qu'un conflit ne se produise. Il faut une dissuasion crédible. On va prendre des décisions sur la nouvelle structure de commandement de l'OTAN et sur la mobilité militaire et ce qu'on appelle l'initiative réactivité avec ses 30 bataillons, escadrilles et navires de guerre qui doivent être prêts à être utilisés dans les 30 jours. Donc, voilà qui est important pour la Pologne, mais pour l'OTAN dans son ensemble.
Une dernière question. Pobida, quotidien du Monténégro. Le Parlement du Monténégro a décidé d'aller renforcer la mission au Kosovo. La Serbie dit que c'est un geste peu amical. Alors, pouvez-vous nous expliquer comment l'OTAN essaie d'apaiser les tensions entre ces deux pays suite à cette décision du Monténégro? Je salue le fait que le Monténégro ait accédé à l'OTAN. Je salue également le fait que le Monténégro ait décidé de contribuer à notre mission au Kosovo. Mais je salue aussi le partenariat très étroit avec la Serbie. Il est vraiment important que nous ayons une coopération étroite avec la Serbie et que, dans le même temps, nous soyons présents et qu'il y ait présence d'alliés de l'OTAN, dont le Monténégro, au sein de la KFOR. Alors, je sais qu'il y a des sujets qui fâchent autour du Kosovo. C'est pour cela que nous soutenons le dialogue Belgrade-Pristina. Nous essayons de trouver une solution négociée aux désaccords, aux défis que pose justement cette relation tendue entre Belgrade et Pristina. Merci beaucoup. Ceci met un terme à la conférence de presse et rendez-vous demain tôt. Merci beaucoup.